Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, le premier vice-président de l'UDI, la formation centriste. Bonsoir Yves Jégo.
Bonsoir.
Vous avez été membre du RPR, puis de l'UMP. Aujourd'hui, vous êtes une des figures du centrisme, membre éminent de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, dont vous avez brigué la présidence l'an passé, finalement battu par Jean-Christophe Lagarde. Aujourd'hui, votre trajectoire peut surprendre. D'un côté, vous menez bataille pour le Made in France avec l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. De l'autre, vous rejoignez le Républicain Bruno Le Maire pour la primaire de 2016, sans défendre l'idée d'une candidature centriste. N'y a-t-il pas là une certaine contradiction? Pourquoi avoir déjà choisi votre candidat pour la primaire à plus d'un an du scrutin? Autant de questions que nous vous poserons au sommaire également. Les élections régionales de décembre, la crise migratoire ou encore la conférence sur le climat qui débute à la fin du mois à Paris. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Marc Perelman de France 24. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Et Alain Onfray du quotidien Libération. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Le compte à rebours est lancé. Le premier tour des élections régionales a lieu dans un peu moins d'un mois. La droite et le centre sont donnés favoris de ce scrutin. L'hypothèse d'un raz-de-marée des listes menées par les Républicains, l'UDI et le Modem vous paraît-elle encore crédible, Yves Jégo?
Moi, je suis toujours très prudent. Il y a des sondages qui donnent des indications, mais on a déjà vu des sondages se tromper. Quelle sera la mobilisation? C'est la première fois depuis des lustres qu'on vote en mois de décembre. On n'a pas voté au mois de décembre, je crois, depuis le général de Gaulle en France. Est-ce que les Français vont sortir de chez eux? Est-ce qu'ils vont se mobiliser sur une élection qui vient dans toute une série d'élections? Et je trouve qu'il y a trop d'élections locales, qu'on est trop souvent en campagne électorale. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi pour, à partir de 2021, regrouper toutes les élections locales, municipales, municipal, départemental, régional, le même jour, pour éviter que les gouvernements, que la classe politique, que les médias ne parlent que de politique élection après élection, pour faire respirer un peu le pays. Raz-de-marée, je ne sais pas. Rejet de la gestion locale par le Parti socialiste de la plupart des régions, sûrement. Moi, j'ai le souvenir des dernières élections régionales. J'étais tête de liste en Seine-et-Marne, en Île-de-France, où le Parti socialiste expliquait qu'il fallait qu'on lui donne le pouvoir à l'échelon de la région. C'était très important pour l'emploi, pour la formation, que ça permettrait d'apporter un plus conséquent au pays. Et on a vu malheureusement que ça n'a pas été le cas. Donc le bilan est mauvais. Je pense, j'espère que les Français en tireront des conclusions. Est-ce que ce sera une conclusion qui ira vers les intérêts des Républicains, de l'UDI et du Modem qui sont unis, ou vers l'extrême droite? Ça reste le point d'interrogation de cette élection.
Alors votre parti a passé un accord avec les Républicains et le Modem dans toutes les régions. Résultat, à l'UDI, vous avez obtenu 3 têtes de liste dans 3 régions gagnables et vous pourriez plus que doubler le nombre de vos élus régionaux. Autrement dit, au soir du second tour, l'UDI pourrait apparaître comme l'un des grands gagnants, l'un des grands vainqueurs de cette élection.
Il y a une chose de sûre, c'est que le pari de Jean-Louis Borloo de recréer une famille politique au centre droit, dans l'opposition, montre qu'aujourd'hui, dans les élections locales, nous avons fait des très beaux scores en municipal, nous avons gagné au départemental de nombreux conseillers départementaux en plus, et aujourd'hui, les Républicains ne peuvent plus gagner sans nous, et réciproquement, je dirais. Donc l'union de la droite et du centre me semble être la martingale gagnante. Il faut que chacun équilibre l'autre, que les sensibilités des uns soient équilibrées par les sensibilités des autres. C'est vrai que dans certaines régions, c'est un peu plus compliqué pour nous d'aller avec des candidats qui sont un peu plus droitisés que nous le souhaiterions. Mais notre présence aussi dans ces listes permettra, je l'espère, de faire qu'on trouve le juste milieu.
Alain Onfray.
Vous êtes particulièrement bien servi dans cet accord avec le parti de Nicolas Sarkozy. Certains pensent d'ailleurs que c'est pas seulement parce que vous êtes utile à la victoire, mais c'est aussi parce que vous êtes utile à Nicolas Sarkozy et notamment au combat dans lequel il est lui engagé, c'est-à-dire celui de la primaire. Est-ce que ça vous paraît être une bonne analyse? Je peux poser la question autrement. Est-ce que vous pensez que les 3 centristes qui ont de bonnes chances de devenir président de région, dans le centre, en Normandie et en Bourgogne,
on peut donner leur nom d'ailleurs,
sont de futurs soutiens de Nicolas Sarkozy?
On peut donner leur nom. Hervé Morin en Normandie, Philippe Vigier en Centre-Val de Loire et François Sauvadet en Bourgogne.
Moi, je ne sais pas ce que décideront ces candidats dont je souhaite qu'ils deviennent président de région vis-à-vis de l'élection présidentielle. C'est une autre histoire. Une histoire entre un pays et un homme, l'élection présidentielle. La politique joue, mais peut-être de façon un peu différente. Je crois que la conclusion, c'est que la droite monolithique fondée sur un parti unique qui rassemblerait l'ensemble de l'opposition, ce modèle a vécu. Et que le modèle traditionnel d'une opposition fondée sur à la fois une partie plus conservatrice et une partie plus libérale et européenne est un modèle qui a prouvé aux élections municipales, aux élections départementales et je l'espère aux élections régionales que c'est un modèle gagnant parce qu'il rassemble plus de gens. C'est au fond peut-être l'échec de l'idée du parti unique que fut l'UMP, mais l'UMP n'existe plus en tant que parti et c'est une nouvelle organisation. Moi, je suis pour une opposition plurielle qui sache se rassembler pour les échéances, mais qui permette à chacun de développer des sensibilités un peu différentes. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas, dans cette opposition plurielle, plus d'incarnation de la sensibilité écologiste, parce qu'au fond, on voit bien avec ce qui se passe chez les Verts, que l'écologie, elle n'est pas pré-vendue à la gauche, et qu'il y a des gens qui ont une sensibilité d'opposition aujourd'hui, qui sont très engagés en faveur de l'environnement. C'est peut-être ce qui manque à l'opposition plurielle, cette face verte.
D'accord. Mais on est bien d'accord, cet accord est très favorable aux centristes, assez généreux, vous êtes d'accord avec
ça ? Vous voulez pas dire que ça serait une victoire, parce que en clair, vous doubleriez le nombre d'élus
régionaux. Oui, mais bien sûr, mais c'est parce que on a regardez aux élections municipales, plus d'un tiers des villes regagnées par l'opposition l'a été par des maires UDI. Les élections départementales,
vous avez bien négocié. Autrement dit,
c'est pas qu'on a bien négocié, c'est qu'on a des bons candidats, c'est que sur les territoires, on représente une sensibilité, c'est que l'idée plus libérale, plus européenne, plus ouverte sur les questions de société convient à un certain nombre de Français. Et si j'ose dire, plus il y a chez nos amis les Républicains, chez certains une forme de droitisation, plus une partie des Français se reconnaissent plus dans l'UDI qu'ils ne peuvent se reconnaître dans une partie des Républicains. Donc oui, je pense que si Nicolas Sarkozy, qui est un bon négociateur, a estimé que 3 régions à l'UDI et que les candidats qui sont partout en France étaient le juste prix de l'Union, c'est qu'il a estimé qu'électoralement c'était puissant pour les idées qu'on défende. Et au fond, on a vocation demain à gouverner le pays ensemble, c'est une évidence.
Marc Perelman.
Les dernières élections régionales, vous les avez mentionnées, il y a eu une vague rose et après il y a eu donc l'élection de François Hollande. Si on voit une vague bleue, entre guillemets, sauf peut-être, on en parlera, le Nord et la région PACA, est-ce que ça laisse quand même augurer que la droite sera très très bien placée pour l'élection présidentielle de 2017 où on n'est pas du tout dans la même dynamique.
Là aussi, moi j'aimerais bien être prévisionniste politique, lisant dans le marc de café et pour savoir quelle est la réalité des choses. Je constate quoi ? Un, que la gauche au pouvoir déçoit. Elle a déçu à l'échelon des départements, elle a déçu à l'échelon des villes, qu'elle déçoit à l'échelon des régions. Que la gauche au gouvernement de la France n'obtient pas les résultats qu'elle s'est engagée à obtenir. Et que malgré les déclarations du président de la République sur les grandes questions, l'économie bien sûr, mais pas seulement, l'autorité, la sécurité, la place de la France, les Français sont très déçus. Ils le disent tous les jours, ils l'expriment tous les jours. La traduction de tout ça dans les urnes pour l'échéance présidentielle serait que normalement, les Français choisiraient une autre voie. Et que cette autre voie, elle doit s'incarner autour d'une opposition que j'espère renouvelée, que j'espère modernisée, rajeunie, pour dire aux Français, vous n'avez pas encore tout essayé ou ne reprenez pas forcément les mêmes pour faire la même chose.
Vous êtes allé soutenir vous-même les candidats centristes, là, les 3 candidats ?
Ils ne me l'ont pas demandé, mais s'ils me l'avaient demandé,
pourquoi
j'aurais été volontiers.
C'est assez étrange.
Mais moi, je fais campagne en Île-de-France, je fais campagne en Seine-et-Marne, je soutiens Valérie Pécresse, dont j'étais tête de liste il y a 6 ans lors des dernières élections. Donc je suis, il y a 5 ans lors des dernières élections, je suis pleinement engagé dans cette campagne. Il s'avère que, pour des raisons qui leur appartiennent, les 3 têtes de liste de l'UDI ne m'ont pas sollicité. S'ils m'avaient sollicité, je serais
toujours
volontiers.
Autant d'inimitié au,
mais est-ce que c'est pas le relan de la campagne interne de l'an passé?
C'est ça.
Sur ce sujet, je n'en sais rien. En tout cas, de ma part, il n'y a pas de relan et je soutiens pleinement nos candidats et tous les candidats de l'Union dans cette élection. Et tous ceux qui souhaitent que je vienne les soutenir, je le fais bien volontiers.
Un chiffre, combien vous espérez de gagner de régions le soir du second tour ? 8, 9, 10, ça serait un bon résultat ?
Si je suis un homme prudent, j'irai le plus possible.
Le parti qui pourrait bien créer la surprise, alors on parlait de l'UDI qui pourrait obtenir un bon résultat, mais c'est bien sûr le Front National qui pourrait créer la surprise lors de ce scrutin. Maurice Leroy, l'un de vos amis, a dit craindre ce week-end que ce scrutin ne se transforme en défouloir national. Vous partagez cette crainte, Yves Jégo ?
Oui, je partage cette crainte. J'ai écrit il y a un peu plus d'un an un livre qui s'appelle « Marine Le Pen arrivera au pouvoir ». Sauf si, alors ce que j'espère c'était, sauf si c'était la partie intéressante, mais le début du livre c'est une analyse je crois très liée au terrain, de la montée qui me semble aujourd'hui se confirmer du Front National, du populisme, à travers l'incarnation que représente la famille Le Pen, qui est une sorte de réceptacle de tous les défoulements, de toutes les colères des Français, d'où qu'ils viennent, et qui, dans les élections, peut faire des scores. Ce que disent les sondages, j'espère, ne seront pas avérés. Mais oui, le Front National peut gagner des régions, et oui, si le Front National gagnait des régions, ce serait un événement politique majeur dans la vie de notre pays.
Comme l'a dit Emmanuel Valls.
Je pense que ce serait difficile pour ces régions, parce que je ne vois pas dans les programmes du Front National de quoi apporter des vraies réponses aux problèmes des gens, mais que ça devrait être un immense signal d'alarme vis-à-vis de la classe politique pour dire qu'il faut faire autrement et offrir d'autres choix, parce que ça voudrait dire que les Français ont sombré dans le populisme en disant, vous savez, le fond de l'électorat de Madame Le Pen, c'est des gens en colère qui disent de toute façon, ça peut pas être pire que les autres, on a tout essayé, donc on va essayer celle-ci. Eh bien, moi j'aimerais qu'on puisse incarner, si un tel scénario arrivait, l'idée de dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent pour dire non, on n'a pas tout essayé, il y a une nouvelle génération qui peut peut-être offrir d'autres solutions.
Allez, offrez.
La grande affaire donc de cette élection régionale telle qu'elle se présente, c'est quand même la possible victoire du Front National dans le Sud ou dans le Nord, voire dans les deux. On entend beaucoup dire qu'il faut, à gauche comme à droite d'ailleurs, hein, on a entendu Christian Estrosi par exemple au Conseil National de ce week-end, à gauche comme à droite, on entend beaucoup dire qu'il faut tout faire pour empêcher le Front National de gagner. On ne sait pas d'ailleurs toujours exactement ce que ça veut dire, tout faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Et si oui, qu'est-ce que vous mettez derrière?
Oui, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire tout faire. Chacun a son niveau de tout faire sur ce sujet-là. Je pense que le Front National est une impasse politique pour les régions. Il faut d'abord essayer de convaincre les électeurs que c'est une impasse politique. Il faut leur démontrer que le Front National n'est pas un parti comme un autre. Il y a les partis du champ républicain, et moi je ne confonds pas le Parti Socialiste, les Républicains, l'UDI, c'est pas la même chose, mais c'est dans ce que j'appelle le champ républicain. Et puis il y a les partis qui sont en dehors du champ républicain, le Front National en fait partie, pour une raison au fond assez simple, c'est que le Front National considère qu'un individu doit être jugé pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Et moi, je suis un républicain et je considère que l'individu, il doit être jugé pour ce qu'il fait. C'est le mérite, c'est la reconnaissance du fait que d'où qu'on vienne, quelle que soit sa race, sa religion, c'est son attitude, c'est sa place dans la société, c'est l'effort qu'on fait pour la société, c'est son respect de la règle du vie en commun qui donne du sens à la République, et c'est pas sa couleur de peau, sa religion. Donc il y a une ligne de fracture. On voit bien cette ligne de fracture sur ce sujet. Donc moi, je combats le Front National parce que je considère qu'à la fois sur les solutions et à la fois sur le positionnement, le Front National est pour la France le pire des remèdes qu'on pourrait imaginer. Et quand on a posé ça, il s'ouvre la question du Front Républicain. Mmh. Est-ce qu'ils font tomber dans le piège de Madame Le Pen, qui consiste à dire, vous voyez bien que c'est tous les mêmes, puisqu'ils sont même capables de s'allier contre nature pour venir nous combattre. Je crois qu'il y a un piège politique. Je crains qu'on soit tous tombés dedans. Moi, j'ai déposé une idée qui va se transformer en proposition de loi, qui est assez simple, qui dit, au fond, il faut sortir de l'idée qu'au deuxième tour d'une élection, il puisse avoir trois candidats. À l'élection présidentielle, il n'y a que deux candidats.
Donc vous voulez deux candidats au second tour?
Moi, je veux deux candidats au second tour de toutes les élections, ça me semble démocratique. Et pour les élections à la proportionnelle, comme les élections régionales, de faire en sorte que ceux qui, au premier tour, auraient passé les 10%, eh bien, puissent avoir une répartition de sièges, de quelques sièges qui seraient répartis pour assurer leur représentativité, mais que pour le deuxième tour et la répartition finale des sièges, on ne garde que les deux premiers.
Alors ça,
si nous faisions cette évolution-là, on enlèverait beaucoup de questions, parce qu'aujourd'hui, regardez, si le Parti Socialiste se trouve en troisième position, on va lui dire enlevez vos candidats. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune représentation des socialistes dans ces régions-là. Réciproquement d'ailleurs pour les autres partis qui seraient amenés à faire ça. Donc je pense qu'il faut faire évoluer la législation. D'ailleurs, on sait s'adapter. Hein. Quand on crée les primaires au Parti Socialiste, c'est bien pour répondre à la montée du Front National. Mmh. Les primaires, c'est pour éviter l'éparpillement des voix qui fait que vous ne seriez pas au deuxième tour de la présidentielle. Donc moi, je propose de façon tout à fait claire qu'il n'y ait plus que deux candidats au deuxième tour de toutes les élections en France, et que pour les les élections proportionnelles, eh bien ceux qui ont fait un score significatif de premier tour soient quand même représentés dans l'Assemblée régionale.
On n'en est pas encore là, hein. Ça c'est une proposition que vous avez faite. Pour l'instant, il y a ce débat qui a été relancé sur le Front républicain. Manuel Valls, lui, a lancé dimanche soir un appel à tous les républicains. Je vous propose de l'écouter.
Les républicains, au sens très général du terme, avec un R majuscule, ceux qui aiment la France, ceux qui aiment la République et les valeurs, ils devront se rassembler. Ce que je demande à la droite républicaine, c'est de prendre ses responsabilités. Le nini, le renvoi dos à dos, est irresponsable.
Que répondez-vous à Manuel Valls, Yves Jégo?
Les républicains, au sens le plus noble du terme, doivent se rassembler sur cette question-là. Mais on voit bien le piège d'un parti socialiste qui peut pas commencer à dire à ses électeurs, si on est troisième, on disparaîtra.
Vous n'aurez plus de candidat. Vous pouvez pas faire liste commune?
Liste commune, c'est tomber dans le piège de Madame Le Pen, qui dit c'est tous les mêmes.
Regardez, ils sont
même
capables. Il n'y a pas de solution.
Mais il n'y a pas de solution. Okay. Il n'y a aucune bonne solution. Il n'y a que des mauvaises solutions. Okay. C'est ça la vérité. Okay. Et pourquoi je propose d'en sortir par une évolution de notre législation qui n'est pas un bouleversement monstrueux? C'est parce qu'il n'y a plus de bonne solution face à cette situation-là. Et que nous sommes empêtrés dans ce débat, que nous ne savons plus comment nous en sortir et que, au fond du fond, ça ne donne que du grain à moudre à Le Pen.
Mais pour ces élections, évidemment, votre proposition ne peut pas s'appliquer par définition. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc c'est pour vous, il n'y a plus de Front républicain à l'avenir, mais aussi dans l'avenir immédiat pour ces élections, quel que soit le cas de figure, dans toutes les régions.
Moi, si j'étais en responsabilité dans ces élections, au-delà de l'évolution que je propose de la législation,
voilà. Quel est votre mot d'ordre?
Je pense que le mot d'ordre, ce serait que la liste du champ républicain arrivé en troisième se retire. Mais avec quelque chose de terrible qui fait que tous ces électeurs ne seraient plus représentés dans l'Assemblée régionale.
Mais vous pourriez appeler vos amis, par exemple, s'ils étaient dans ce cas
de figure. Que la liste arrivée en troisième se retire, quelle qu'elle soit.
Ça c'est un cas de figure, et vous pensez pouvoir être entendu là-dessus?
Je pense que les fusions de listes sont très compliquées, parce que la fusion, c'est la confusion. Par contre, qu'une liste se retire pour éviter les choses. Mais je mesure bien que cette solution n'est pas une bonne solution. Voilà, et qu'il n'y a pas de bonne solution. Donc le moins pire, ce serait sans doute ça. La bonne solution, ce serait sans doute d'adopter ma proposition de loi le plus vite possible pour faire qu'on n'ait plus ce cas de figure, et qu'au fond, on ait une démocratie apaisée, qui fasse qu'au deuxième tour, il n'y ait plus que deux partis, que les électeurs choisissent librement. Avec la proposition que je fais, je ne veux pas empêcher qui que ce soit d'être au deuxième tour. Je dis simplement que la confusion de trois listes, évidemment, crée des situations politiques qui sont inextricables et qui, au fond, donnent du grain à moudre aux populistes qui expliquent qu'eux, ils sont différents et que tous les autres, c'est les mêmes. La preuve, ils sont alliés pour essayer de s'opposer à ce qui est, à mon avis, le plus grand danger qui menace la vie démocratique de notre pays, la vie républicaine, qui serait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
Allez, Onfray.
Il y a tout juste un an, Nicolas Sarkozy revenait en expliquant qu'il revenait d'ailleurs par devoir, parce qu'il était le seul à pouvoir faire obstacle au Front National, à pouvoir l'empêcher d'accéder au pouvoir et de troubler comme ça le jeu démocratique. Est-ce qu'on peut considérer que une victoire du Front National dans une région serait pour Nicolas Sarkozy une sanction gravissime? Je ne sais pas comment la qualifier, mais quel est votre avis là-dessus?
Il faudra laisser les spécialistes que vous êtes juger à la fois du positionnement de Nicolas Sarkozy et de savoir si c'est un résultat, si c'est une victoire ou si c'est un échec. Si aucune région n'est prise par le Front National et qu'il y a une belle victoire de l'opposition, est-ce qu'on dira que c'est une victoire pour Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas, moi je vous laisse. Je ne suis pas analyste de cette situation. Ce que je considère, c'est qu'à l'occasion de ces élections régionales, il y a un test grandeur nature, puisque maintenant nous avons des très grandes régions, de l'état politique de notre pays, et que ça doit nous obliger, si le Front National fait les scores que certains sondages prédisent, à une révision de l'organisation politique, à une réflexion en profondeur, et que j'ai le sentiment que d'élection en élection, de période en période, et ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans la politique, chaque fois que le Front National progresse, on dit oui, c'est très grave, et puis on n'en tire aucune conclusion. Le 21 avril, c'est il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Quelles sont les conclusions profondes qu'on a tirées? Et aujourd'hui, on n'est plus à se demander si Mme Le Pen sera au deuxième tour de la présidentielle, on est à se poser la question si elle gagnera pas la présidentielle. Il est peut-être un moment où, face à ce qui serait une victoire du Front National deux ou dans trois régions, il faudra se poser des questions.
Merci Yves Jégo, on va se retrouver dans un petit peu plus de 5 minutes pour la deuxième partie de cette émission. Ça passe très vite, on parlera notamment des primaires, on en viendra aussi à une de vos propositions, les menus végétariens dans les cantines scolaires, vous proposez leur généralisation. On se retrouve donc dans un petit peu plus de 5 minutes. À tout de suite.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi Politique, notre invité ce soir, le premier vice-président de l'UDI, Yves Jégot. On parlait de Nicolas Sarkozy dans la première partie de l'émission. Les ténors de la droite ont beau jeu de répéter que la priorité, ce sont les régionales. Chacun se prépare dans son coin pour les primaires de 2016. Personnellement, vous avez déjà fait votre choix. Vous soutenez Bruno Le Maire, qui, précisons-le, n'est pas encore officiellement candidat. Vous ne militez donc pas pour une candidature centriste à la primaire, Yves Jégot ?
Je suis un pragmatique, je regarde la situation politique. Je pense que depuis le départ de Jean-Louis Borloo, pour des raisons que chacun connaît, le centre n'a aujourd'hui plus de candidats susceptibles de gagner la primaire. Je fais un jure à personne, il y a des candidats qui peuvent vouloir aller à la primaire, qui peuvent vouloir exister à la primaire, c'est même légitime.
Mais c'est pas ce que vous avez toujours déclaré, parce que l'année dernière, durant la campagne interne à la présidence de l'UDI, vous disiez ceci, l'UDI a vocation à présenter les candidats à toutes les élections, y compris les présidentielles.
Oui. Des candidats qui puissent gagner.
Donc, l'année dernière, vous pensiez que...
Et là, je parlais de vocation à présenter d'un candidat à l'élection présidentielle, la primaire. C'est autre chose sur ce sujet.
C'est la pré-présidentielle.
Si vous me demandez ma position, moi, je constate qu'aucun candidat de l'UDI ne peut gagner cette élection. Encore une fois, je ne fais insulte à personne et je ne reproche à personne, et sûrement pas au président de l'UDI, d'avoir l'ambition de faire son petit tour de piste personnel pour exister à cette occasion. Ça me semble tout à fait légitime. Mais personne ne pense que Jean-Christophe Lagarde pourrait gagner l'élection présidentielle de 2017. Donc, dans ceux qui pourraient gagner l'élection de 2017, il me semble qu'il n'y a qu'un candidat, un seul, qui peut créer le choc de renouveau, qui peut bousculer le jeu et qui peut sortir du débat Marine Le Pen les anciens contre les modernes et l'UMPS, etc. C'est Bruno Le Maire. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire, il a la dimension d'homme d'État, il a montré dans son parcours politique une forme de courage politique qui est tout à fait notable, et qu'il est le renouveau politique. Et je crois que les Français, moi je les écoute tous les jours dans ma circonscription, ailleurs, je suis président des clubs Perspective et Réalité, je vais dans toute la France, les gens me disent, on veut des têtes nouvelles. Regardez ce qui s'est passé avec Trudeau au Canada. Au mois de septembre, tout le monde disait, ce Trudeau, il n'a aucune chance de gagner. Trudeau, il a gagné l'élection au Canada, il est Premier ministre. Je pense que le monde du 21e siècle attend des hommes du 21e siècle pour gérer les problèmes du 21e siècle, et que, aussi injuste que ce soit, les hommes du 20e siècle sont aujourd'hui dépassés dans l'opinion publique. C'est ça qui me fait me battre et souhaiter que Bruno Le Maire ne soit pas... Je souhaite pas qu'il soit candidat à la primaire, je souhaite qu'il soit élu président de la République.
Mais
en 2017. Parce que je pense que si la France se donnait un président de la République de 48 ans ou de 49 ans en 2017, qui a la vision qui est la sienne, la culture qui est la sienne, la profondeur qui est la sienne, on rentrerait dans le 21e siècle. Parce que si c'est pour reprendre les mêmes et faire la même chose, ça me semble dramatique.
Mais quand même, je veux quand même revenir. Vous avez quitté l'UMP, vous adhérez à un parti centriste et vous dites que vous allez soutenir un candidat des Républicains, donc le parti qui a succédé à l'UMP. On comprend que vous voulez faire ça par pragmatisme, mais quand même, ça, il y a quand même une conviction. Quand on est un homme politique, vous adhérez à un parti, vous êtes un des dirigeants du parti, et vous dites, à la primaire, je ne vais pas voter pour le candidat de ce parti. Avouez que c'est quand même particulier.
C'est votre analyse qui est particulière sur ce sujet. D'abord, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un pays, avait dit le général de Gaulle. C'est pas une question de parti politique. L'organisation politique d'aujourd'hui, est-ce qu'elle sera encore l'organisation politique de demain ou d'après-demain ? Vous savez, dans ma courte carrière d'une vingtaine d'années, j'en ai connu. J'ai été au RPR, à l'UMP. L'UDI n'existait pas il y a deux ans, elle existe aujourd'hui. Donc, lire l'avenir d'un pays juste par le prisme de l'organisation politique du temps X, ça me semble un peu limité. Par ailleurs, je note que l'UDI est allié aux Républicains dans toutes les élections. Que Jean-Christophe Lagarde lui-même a négocié pour les élections régionales un accord où dans 100% des régions...
Mais un accord de désistement pour la présidentielle.
Il a négocié un accord sur ce sujet-là. Donc
l'UDI et les Républicains sont deux partis différents quand même.
Est-ce que quelqu'un pense sérieusement qu'il peut y avoir un président de la République UDI depuis le départ de Jean-Louis Borloo à l'élection de 2017. Si quelqu'un le pense sérieusement, moi, je pense que malheureusement, nous sommes trop jeunes, nous n'avons que deux ans d'existence, ça n'est pas possible. Donc je tire la conclusion que le candidat ne sera pas un candidat de l'UDI, et que même si nous avons quelqu'un qui, au premier tour de la primaire, va faire son tour de piste personnelle, et ça me semble légitime, au deuxième tour, nous deviendrons un candidat des Républicains.
Bah, disons que j'ai anticipé un peu sur cette idée-là, et que dans l'offre politique globale, UDI, Républicains comprise des présidentiables, y compris François Bayrou, je mets l'offre globale, il me semble aujourd'hui qu'il n'y en a qu'un seul qui pourrait bousculer la table, renverser le système et provoquer ce choc que le pays attend, à la fois sur le fond et sur la forme, c'est Bruno Le Maire. Et moi, je souhaite que Bruno Le Maire soit encore une fois pas seulement candidat à la primaire, je souhaite qu'il soit élu président de la République. Et si c'est pas lui, j'ai les plus grandes craintes, si on retrouve les mêmes qui disent la même chose dans le même combat, si vous avez à l'élection présidentielle les mêmes que la dernière fois, eh bien moi j'ai très peur que les Français aillent choisir la nouveauté à l'extrême droite, et ça je n'en ai pas envie.
Alain Onfray.
On entend bien ce que vous dites sur le choc de renouveau, mais quand on regarde les discours, celui qui finalement est le plus, peut-être le plus étonnant, le plus novateur, j'allais dire, en tout cas qui va le plus dans le sens de ce que vous pensez, de ce qu'on sait de ce que vous pensez, je veux dire par exemple sur les questions comme la laïcité ou sur la critique que vous pouvez formuler sur l'hystérie identitaire de certains à droite aujourd'hui, c'est pas Bruno Le Maire, c'est beaucoup plus Alain Juppé. Pourquoi pas Juppé?
Vous savez, c'est compliqué. Moi, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy, j'ai été ministre sous François Fillon, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé. Ils ont tous des qualités, ils ont tous une vision de la France qui me semble être à la hauteur du défi. Et aucun de ceux-là n'incarnera la nouveauté du 21e siècle. Aucun de ceux-là, quelle que soit leur bonne volonté, n'aura, à mon avis, cet effet pour dire aux Français, on va vous expliquer le monde qui change et on va faire rentrer la France dans le monde qui change. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi un Emmanuel Macron devient aussi important dans l'opinion publique à 37 ans.
Donc, parce qu'il incarne... 40 ans,
parce que ça suffit pas. Il faut être un homme d'État, il faut avoir la dimension, il faut avoir la vision. Mais parce qu'il incarne aux yeux des Français cette modernisation du pays dont les Français sentent bien qu'elle est indispensable.
On peut reparler voilà.
C'est très injuste. Macron, non, mais je termine. C'est très injuste, sans doute, pour ceux que vous avez cités, qui ont peut-être envie de continuer, de poursuivre. Je le comprends.
Donc Alain Juppé est trop vieux.
Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de temps, c'est une question d'accélération de l'histoire, c'est une question de... Les Français ont le souvenir qu'Alain Juppé, il a gouverné le pays il y a 20 ans, que Nicolas Sarkozy, il a gouverné il y aura 10 ans, que François Fillon a géré le pays. Et au fond, moi je suis persuadé, c'est pas ce que je pense moi, c'est que vont penser les électeurs.
Mais pour mobiliser par rapport au discours,
des électeurs, je pense qu'il faut leur offrir du neuf et des gens nouveaux.
Mais par rapport à la différence de discours, il y a quand même une différence assez marquée du discours entre celui d'Alain Juppé, pro-européen, qui tente un petit peu de pacifier les choses, et on voit là aujourd'hui un Bruno Le Maire qui droitise énormément son discours. Est-ce que ça ne vous dérange pas, vous qui êtes plutôt étiqueté, et qui même n'êtes pas étiqueté, qui êtes membre d'un parti centriste?
D'abord, quand vous faites la primaire de la droite, si vous ne faites pas un discours qui parle à vos électeurs, c'est complexe. Quand on dit qu'il droitise son discours, c'est quoi? C'est quand il dit qu'il faut, par exemple, que les étrangers qui ont une fiche S soient renvoyés dans leur pays d'origine. Honnêtement, si c'est ça la droitisation, c'est une droitisation.
Le rétablissement de la double peine.
Bruno Le Maire est un Européen convaincu. Il est proche de l'Allemagne. Je suis persuadé que si on veut sauver la France et si on veut sauver l'Europe, c'est par le couple franco-allemand. Et le décès d'Helmut Schmidt nous rappelle qu'il y a eu des grands couples qui ont fait avancer l'Europe. Adenauer, De Gaulle, Schmidt, Giscard, Kohl, Mitterrand. Il faut retrouver ce grand couple franco-allemand. Et Bruno Le Maire est, à mon avis, le seul qui puisse le faire, qui a montré qu'il puisse le faire. Et puis, il faut faire rentrer le pays dans ce 21e siècle. Il faut montrer aux Français combien les défis qui sont devant nous sont aussi porteurs d'espoir et d'ambition. Il a la dimension personnelle, il a la formation qui me fait penser que s'il doit y arriver une nouveauté, c'est par lui qu'elle passera aujourd'hui. C'est ça mon analyse, c'est pas un intérêt personnel. Si c'était qu'un intérêt personnel, j'aurais fait ce que dit Alain Onfray, j'aurais été vers Alain Juppé en disant, mon cher Alain, est-ce que vous pouvez me réserver une place au chaud? C'est pas le cas. Je pense que pour mon pays, il faut que les Français se mobilisent pour offrir du neuf et que le neuf dans l'opposition, seul aujourd'hui Bruno Le Maire l'incarne parce qu'il est et par le courage qu'il a eu au cours des dernières années.
Et ça veut donc dire que si François Bayrou venait à se présenter à l'élection présidentielle de 2017 sans passer par la primaire, vous ne le soutiendriez pas?
La primaire, elle a été inventée à cause du Front National. C'est la fille du Front National. la gauche a fait la primaire pour éviter que la gauche ne soit pas au deuxième tour comme ce fut le cas le 21 avril. La droite se met à la primaire pour éviter l'éparpillement des voix, pour faire qu'on soit garanti d'être au deuxième tour. Ça veut dire que si au premier tour, malgré la primaire, on a plusieurs candidats qui représentent l'opposition, on a un fort risque de ne pas être au deuxième tour. Ça me semblerait catastrophique. C'est pour ça que je pense que ce que dit François Bayrou me semble extrêmement dangereux dans la perspective de la montée du Front National. Et que moi, quand je m'engage, je n'ai pas l'habitude de m'engager à moitié. Je me suis engagé aux côtés de Bruno Le Maire. Je veux apporter dans l'univers qu'elle tient les idées de l'UDI et les idées centristes. Et je pense que l'UDI doit être présent, pas seulement autour de ceux qui sont des centristes historiques, mais autour de ceux qu'il faut qu'on amène vers notre sensibilité. Et je pense que si la surprise Bruno Le Maire devenait l'événement politique de l'année 2016, d'abord vous en parleriez beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui, et que peut-être la France retrouverait un peu d'espoir en se disant « Ah, enfin, il y a du neuf, il y a un peu d'énergie nouvelle pour nous emmener là où il faut dans un siècle compliqué ». Voilà mon analyse. Sur le reste, l'analyse politicienne ou des ambitions des uns et des autres, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont parfaitement aptes à comprendre les arrière-pensées des uns et des autres.
Allez, une dernière question rapide d'Alain Onfray sur le sujet.
Oui, on est un peu là dans un entre-deux, c'est-à-dire que la primaire effectivement est au programme, mais en même temps on a toujours un chef de parti qui est aussi, qui se vit comme le candidat naturel et qui de toute façon est candidat à la primaire, donc il cumule les deux. Est-ce que vous pensez que ce système de primaire, donc il y a beaucoup de militants à droite ou de sympathisants qui sont encore dans l'ancien logiciel, ça vous a pas échappé, donc est-ce que vous pensez que le système de la primaire a vocation à s'installer dans le paysage politique, ou bien est-ce que c'est une tentative un petit peu empirique de régler un problème concret qui est celui du Front National?
Tant que le Front National sera au niveau où il est, tant que nous aurons une vie politique coupée en gros en trois, entre la gauche, la droite républicaine au sens large du terme et l'extrême droite, je pense que le système de primaire s'installera et devra s'installer, que c'est compliqué, que c'est à rebours de nos habitudes, de beaucoup de choses dans l'histoire de ce pays. C'est la première fois que l'opposition organise sa primaire, donc évidemment ça reste très complexe, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution tant que nous sommes sur une élection où il y a trois forces politiques. Au fond, si on veut être simple, hein, il y a trois grandes forces politiques, gauche, droite républicaine au sens large et extrême droite, bah, il faut trois tours à l'élection présidentielle, et d'accord, la primaire, c'est une sorte de pré-premier tour.
Et le cumul, chef de parti, candidat à la primaire, c'est pas un peu problématique?
Moi, ça ne me semble pas problématique, et qui pourrait imaginer que Nicolas Sarkozy serait revenu pour faire autre chose que d'essayer de reconquérir le pouvoir? C'est un homme d'État, il a dirigé le pays, et personne ne peut lui nier ces dimensions d'homme d'État, comme d'ailleurs à Alain Juppé, comme à François Fillon, comme à Bruno Le Maire. Puis après, vous aurez à la primaire des gens qui veulent exister pour leur avenir, qui veulent prendre leur place pour les années qui suivent. On l'a vu dans la primaire de gauche. C'est pas un reproche non plus, c'est tout à fait légitime. Mais au fond, on sait bien que le jeu se jouera entre une poignée de 3 ou 4 personnes, et qu'il y a un challenger qui, à mon avis, va faire la surprise, parce que j'entends trop sur le terrain des gens qui disent « mais il y en a assez, on veut bousculer les choses ». Eh bien, bousculer les choses, c'est de faire en sorte que ce jeune candidat qui n'est pas encore assez connu des Français, eh bien, il puisse devenir président de la République. Imaginez quand, dans 18 mois, Bruno Le Maire soit élu président de la République. Vous voyez le choc que ça représenterait pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Ce serait, à mon avis, considérable.
Yves Jégot, le premier vice-président de l'UDI et l'invité ce soir de Mardi Politique sur RFI. Venons-en maintenant rapidement, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes, à la politique gouvernementale et ce nouveau pavé dans la mare jeté ce matin par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il était l'invité de nos confrères d'Europe 1. On l'écoute.
Il me semblait important de réfléchir à la modernisation du cadre. On a besoin de fonctionnaires, c'est essentiel. On a besoin d'un statut de la fonction publique pour garantir la neutralité et leur impartialité. Maintenant, regardez la réalité des choses. Il y a beaucoup de fonctions qu'on donne à des fonctionnaires qui pourraient l'être par des gens qui ne le sont pas. Mmh. Et on garantit des emplois à vie parfois de manière indue, sans même passer par des concours. Et ça, c'est pas juste.
Donc vous dites oui aux fonctionnaires payés au mérite, à l'image de ce que fait le maire des Républicains de Suresnes.
Et moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser.
Accroître la part de mérite dans la rémunération des fonctionnaires. On imagine que l'idée doit vous plaire, Yves Jégot.
Moi, je suis un libéral. Donc je suis pour que effectivement le mérite soit à tous les étages de la société, que l'école soit celle du mérite, que la République soit fondée sur le mérite et pas sur le statut, la couleur de peau ou l'origine des gens, et qu'effectivement dans la fonction publique, une partie de la rémunération, en l'occurrence je crois qu'on parle de la mérite suraine, c'est les primes, c'est pas la partie la plus importante de la rémunération, puisse être fondée sur une forme de mérite. Alors après, il faut éviter le petit chef qui veut se venger de celui qu'il veut punir, il y a des protections à mettre en œuvre. Mais ça me semble être une idée moderne, tout comme il faudra bien réfléchir au statut de la fonction publique. Et est-ce qu'on a besoin sur d'enfermer dans des statuts qui, au fond, étouffent le système, des gens qui pourraient accéder plus facilement à des emplois? Il y a un débat qu'il faut ouvrir. Ce que je regrette, je n'ai rien à redire à ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi je suis en phase avec lui.
Vous pourriez travailler avec lui dans l'avenir?
Mais bien sûr que le jour où il faudra créer une grande coalition, un peu comme ça le faire les Allemands, sur deux ou trois idées fortes pour faire évoluer le pays, il fait partie des gens avec qui on peut travailler.
Il le faudra, cette
mais
grande coalition.
Peut-être qu'il le faudrait. Regardez sur la loi dite Macron, la première loi. Manuel Valls n'aurait pas voulu affirmer son autorité à coup de 49-3. On aurait eu une vraie négociation avec le groupe UDI qui nous aurait permis d'apporter un certain nombre de choses.
Et certains membres de l'UDI étaient prêts à la voter d'ailleurs.
Mais moi j'étais prêt à la voter, nous étions prêts à la voter. Il aurait pu avoir une nouvelle majorité qui se crée une majorité d'idées. Pas changer de camp une majorité d'idées. Simplement, le Premier ministre n'a pas osé, il a préféré imposer à la gauche de la gauche ce texte par la force. Et du coup, le texte, il a été édulcoré. Et du coup, les idées que nous voulions apporter n'ont pas pu être prises en compte. On était très modestes, hein, on voulait changer un peu les seuils sociaux dans le Code du travail. C'était quelque chose de tout à fait modeste. Ça n'a pas été attendu. Je pense qu'il faut aussi moderniser la pratique politique. Et sur certains sujets, il faut que les forces de droite et de gauche travaillent ensemble. Vous avez dit au début de votre émission que c'était anachronique ou paradoxal que je puisse travailler avec Arnaud Montebourg. Ben je pense que sur certains sujets, c'est bien qu'on travaille ensemble.
Et bien justement, on a un petit peu du mal à vous suivre, à vous écouter.
Et bien tant mieux, au moins ça vous interpelle et ça
voilà,
me permet de vous expliquer les choses.
Ça nous interpelle. D'un côté, vous dites, là, vous nous le disiez, vous êtes séduit par le discours d'Emmanuel Macron, le discours libéral, et de l'autre, vous défendez le Made in France avec l'un de ses plus fervents adversaires à gauche, Arnaud Montebourg. Il n'y a pas une contradiction là tout de même?
Non, c'est tout le contraire. Moi, je suis pour le produire en France. Je pense que c'est une grande cause nationale et que d'avoir abandonné notre système de production en expliquant qu'il n'y aurait plus d'usines en France était une folie d'une partie du patronat français et qu'il faut ramener de la production en France. Mais moi, je suis pour un monde ouvert. Je suis pas un protectionniste. Je suis pour que les produits circulent. Mais je suis avec la même énergie pour que le consommateur, en ayant l'information sur ce qu'il achète, en sachant ce qu'il achète, en sachant d'où vient ce qu'il achète, il puisse être l'arbitre de l'économie. Voilà. Et donc, ce combat, il nous rapproche avec Arnaud Montebourg. Nous n'avons pas changé de parti politique. Je ne suis pas devenu un homme de gauche. Il n'est pas devenu un homme de droite. Sauf que sur ce sujet-là, on fait alliance pour défendre ceux qui produisent, ceux qui entreprennent, ceux qui se battent, les jeunes, les moins jeunes, les start-up, tous ceux qui essayent de recréer de l'activité dans ce pays. Eh bien, c'est bien. Et ça vous interpelle. Ça me permet de vous répondre. Mais je peux vous dire que sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça formidable. Il y a beaucoup de gens qui disent si sur un certain nombre de sujets, nos hommes politiques de droite et de gauche savaient se prendre la main pour avancer ensemble, et on pourrait le faire sur d'autres sujets avec un Macron, eh bien peut-être le pays s'en porterait mieux. Les pays plus épanouis économiquement, je pense à l'Allemagne, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, eh bien l'Allemagne sait créer des coalitions pour avancer. Et quand il y a eu la grande réconciliation d'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, c'est une coalition qui a supporté ces évolutions. Donc oui, il faut aussi moderniser notre pratique politique. C'est pas simple dans un pays qui est encore figé dans des habitudes, dans des camps. Mais je pense que si nous arrivons à trouver les bonnes formules, eh bien, on sera plus efficace et qu'au fond, les Français seront peut-être un peu plus fiers de leur classe politique.
Faire de la politique autrement, c'est ça aussi, c'est trouver peut-être à des moments, faire cause commune avec certains adversaires politiques sur certaines propositions. On pourrait aborder une autre de vos propositions, celle du menu végétarien dans les cantines scolaires. Vous souhaitez le généraliser? Vous avez des
propositions? Le menu végétarien alternatif, en plus du menu normal. Hein, non, mais pour qu'on soit très clair sur ce sujet. Oui, c'est une réflexion sur la façon dont on nourrit nos enfants et la guerre des cantines scolaires dont certains se sont emparés pour en faire des guerres de religion, des guerres idéologiques. On voit bien que depuis 10 ans, c'est des sujets de combat autour du porc, autour des musulmans, autour des religions. En proposant cette idée d'un menu végétarien alternatif dans toutes les cantines, c'est-à-dire à côté du menu normal choisi par le gestionnaire de cantine, cantine de façon tout à fait libre, il y aurait un plat végétarien équilibré. Je pense qu'on peut sortir de cette guerre et puis aussi ouvrir ce débat sur la question de la façon dont s'alimentent nos enfants. Il y a un vrai débat de société. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a presque 147 000 personnes qui ont signé une pétition sur Internet sur ce sujet-là,
000,
ce qui est tout à fait surprenant et considérable. Oui, les Verts, j'espère, pourront l'inscrire dans leur niche parlementaire. Vous savez, les propositions de loi des députés, il faut qu'elles trouvent de la place dans le Parlement. J'espère qu'en janvier, le groupe Europe Écologie Les Verts pourra l'inscrire et qu'on pourra la faire voter pour faire un progrès, parce que c'est aussi ce qu'on appelle la transition protéique d'un monde qui doit se nourrir avec moins de protéines animales et plus de protéines végétales, qui est d'enjeu derrière tout ça. Oui, c'est des enjeux majeurs. Oui, si on peut le faire de façon transpartisane, est-ce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent ceux qui nous élisent? Ben moi, je crois que oui.
Alain Onfray.
Est-ce que, en formulant cette proposition, vous vous êtes attiré des commentaires, des questions ou des félicitations des milieux religieux, notamment musulmans?
Des milieux religieux, pas forcément. J'imagine que dans les 147 000 qui, à ce jour, j'espère bien qu'on attendra d'ailleurs 150 000, c'est sur change.org,
oui,
si
change
certains de ceux qui nous écoutent ou nous regardent veulent signer. Oui, il y a des gens qui... Ça, c'est bien, c'est une porte de sortie intelligente. Alors, il y a le ministre de l'Agriculture qui a dit « Ah oui, mais il y a la crise de l'élevage », comme si c'était les cantines des écoles qui étaient la variable d'ajustement de toutes les crises agricoles. D'autant plus que la viande des cantines, elle vient en général pas de France, elle est en général pas de très bonne qualité. Donc, tout ça est un faux débat. Oui, ça peut apaiser aussi la question religieuse, parce que derrière le menu végétarien équilibré, il y a aussi le respect de ceux qui ont des valeurs un peu différentes.
Et Bruno Le Maire s'est emparé de cette proposition, évidemment.
Moi, je suis catholique, et un vendredi saint, ça m'ennuierait que dans l'école de mes enfants, on oblige mon fils à manger de la viande un vendredi saint. Donc, s'il y avait un menu alternatif végétarien, on s'y retrouverait. Thierry Soler, qui est un des très proches de Bruno Le Maire, soutient cette proposition et d'autres. Alors j'ai bien conscience qu'au moment où il y a la crise des éleveurs, l'éleveur qui souffre, il dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je comprends bien la difficulté. Mais moi, c'est une vision à long terme. La crise, il faut la résoudre à court terme. Je trouve d'ailleurs que M. Le Foll, à part critiquer l'opposition, ne fait pas grand-chose pour essayer de la résoudre dans de bonnes conditions.
Rapidement, avant de passer à la dernière partie de cette émission, il nous reste un petit peu plus de deux minutes. Marc Perelman, une question sur l'Europe et sur l'actualité du jour.
Oui, donc la disparition de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, qui a beaucoup fait pour la cause européenne, avec Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez évoqué, qui l'a qualifié de meilleur chancelier allemand à l'heure où l'Europe vit de crise en crise, des réfugiés à la possible sortie du Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez qu'on vit les heures les plus sombres de la construction européenne depuis très longtemps, depuis peut-être le début?
On ne sait jamais, le pire n'est jamais certain. J'ai une conviction en tant qu'Européen convaincu, c'est que l'Europe telle qu'elle a été formatée et telle qu'elle fonctionne ne convient plus aux Européens. Il suffit de voir le résultat des dernières élections européennes pour s'en convaincre. Et qu'au fond, la porte de sortie de l'Europe, c'est la reconstitution du couple franco-allemand. Et une des raisons qui fait que je m'engage derrière Bruno Le Maire, c'est qu'il a la dimension, l'expérience, il a été ministre des Affaires européennes, la pratique, il parle un allemand tout à fait parfait, pour que le couple franco-allemand se reconstitue et que de ce couple franco-allemand, on reconstruise une dimension européenne nouvelle avec un nouveau traité, il faudra passer par un nouveau traité, avec des compétences plus visibles, la question migratoire doit être plus gérée et plus intégrée par l'Europe et mieux gérée par l'Europe. Et avec sans doute une Europe à plusieurs étages, parce qu'il y a évidemment à l'intérieur de cette grande Europe des pays qui ne peuvent pas être au même niveau que les autres. Mais c'est d'abord le franco-allemand, c'est d'abord la convergence franco-allemande qui fonctionnera. Et si les Français, si on n'arrive pas dans les 18 mois qui viennent à expliquer aux Français que c'est par cette convergence franco-allemande qu'on sortira l'Europe de l'ornière et qu'on reconstruira notre modèle, eh bien nous aurons quelque part échoué face à ceux qui ne veulent que détruire l'Europe et nous rétrécir.
Merci Yves Jégot d'avoir répondu à notre invitation. L'émission se termine maintenant. On a été un petit peu pris par le temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Mathias Golchani qui a réalisé cette émission comme chaque semaine. Et merci à Audrey Yatoni qui l'a préparée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bonne semaine à tous.